Chers auditeurs, le 13 février 1790, la Constituante décréta qu'elle ne reconnaissait plus de vœux solennels. Elle décida donc la suppression des ordres religieux masculins. Dans l'immédiat, elle ne décida rien pour les couvents de femmes. Les religieux avaient la possibilité de choisir soit de sortir du cloître, et dans ce cas ils recevaient une pension, soit de poursuivre la vie commune, et ils seraient alors regroupés dans des maisons désignées à cet effet. Dès qu'ils furent en possession des décrets d'application, les officiers municipaux de Bayonne se firent en devoir de donner sans tarder force à la loi et des commissaires furent désignés pour visiter les couvents de la ville, en faire l'inventaire et interroger les religieux sur leurs intentions. Les procès-verbaux de ces visites ont été conservés et permettent de connaître la situation de ces maisons au début de la Révolution. Elles pouvaient recevoir chacune une vingtaine de religieux, mais aucune n'était occupée au plein de ses capacités d'accueil. Même la maison des Capucins, la plus vaste, c'est vrai, avec 25 cellules, ne comprenait que 17 religieux. C'était tout de même la communauté la plus importante de Bayonne et du diocèse. Celle des Dominicains comptait 11 religieux prêtres, un clerc et un frère convert. Chez les Carmes, il y avait également 11 religieux et 3 frères laits. Les moins nombreux étaient les Augustins. Ils étaient 8 religieux prêtres et un frère convert dans une maison prévue pour 20 religieux et pour le personnel de service. Les religieux devaient donc exprimer leurs intentions, continuer une vie de communauté, mais dans des conditions différentes, ou entrer dans la vie séculière de prêtres diocésains s'ils avaient reçu la prêtrise. Parmi les Carmes, un seul déclara vouloir vivre et mourir dans l'ordre du Carmel. Tous les autres choisirent la vie séculière. Les proportions furent inverses chez les Capucins. Un seul abandonna la vie conventuelle. Les autres optèrent pour la vie commune. Plusieurs religieux mirent à leur choix des restrictions ou des conditions concernant l'avenir. Au total, à Bayonne, la moitié des religieux se décida pour la sécularisation. Cette proportion correspondait à la moyenne nationale. Il faut cependant se garder de conclure à la décadence évidente de la vie religieuse chez les uns, c'est-à-dire chez ceux qui optèrent pour la sécularisation, et à la ferveur et à la fidélité méritoire chez les autres. Après tout, les religieux n'étaient pas tenus d'accepter les conditions nouvelles qu'on leur faisait et qu'ils n'avaient pas choisies au départ. Le choix de la vie séculière n'aurait été un indice fâcheux que s'il avait été accompagné de paroles indiquant clairement un rejet de la vie religieuse. Aucun religieux bayonnais ne va dire qu'il sort avec plaisir ou qu'il est heureux de profiter des bienfaits de la nation. Plusieurs d'entre eux se retrouveront prêtres assermentés ou vicaires de paroisse. Dans un premier temps, la Constituante permit aux religieuses de rester dans leur maison, à certaines conditions qu'elles pouvaient souvent remplir sa difficulté, par exemple, qu'elles élisent leurs supérieurs, ce qu'elles avaient fait déjà il y a longtemps. Les officiers municipaux se contentèrent de faire l'inventaire des lieux et de dresser la liste des religieuses. Ce n'est que plus tard qu'elles devront se disperser. Les événements et les décisions de Versailles avaient, comme on dit, un impact sur la vie de l'Église en dehors des couvents de religieux. De retour dans son diocèse, Monseigneur de Villevielle avait cru déceler quelques velléités d'indépendance parmi ses prêtres et il s'était rendu compte qu'il leur répugnait de publier certains décrets de l'Assemblée nationale. Le prône du dimanche était en effet à cette époque le canal habituel par lequel les décisions du gouvernement parvenaient à la connaissance du peuple. De plus, ces diocésains avaient une fâcheuse tendance à frauder le fisc révolutionnaire. Il estima donc de son devoir de réagir, et il le fit dans un mandement qu'il adressa à ses diocésains le 25 mai 1790. Il leur annonçait en même temps une visite pastorale de son diocèse, peut-être la dernière, ajoutait-il, prévoyant sans doute pour l'avenir des difficultés plus grandes que celles du présent. Il aimerait, disait-il encore, pouvoir établir un contact direct avec la population, mais il y avait la langue. Si l'idiome qui nous est absolument étranger ne formait un obstacle, la parole de Dieu, disait-il, coulerait de nos lèvres comme d'une source intarissable. Il est permis de penser que Monseigneur de Villevielle faisait allusion à la revendication exprimée par ses curés dans le cahier de doléances au sujet du choix des évêques de Bayonne. Dans ce mandement, un long paragraphe est consacré à l'attitude que l'évêque serait appelé à prendre si la discipline ecclésiastique n'était pas respectée. On peut se demander pourquoi ce rappel et pourquoi les allusions à d'éventuelles sanctions qui seraient, précise-t-il, toujours tempérées par la bonté. Nous l'avons dit, Monseigneur de Villevielle pensait déceler chez ses prêtres les symptômes d'aspiration à plus d'indépendance, tendance qui à Versailles et à Paris se développait de façon inquiétante. Monseigneur de Villevielle rappelle ensuite quelques principes de conduite pratique. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est la violence. Contraire, dit-il, à l'esprit du christianisme et attentatoire à l'ordre public. La violence s'étendait, se développait un peu partout en France. À l'égard de ceux que des préjugés éloignent de la religion et surtout de ses ministres, il s'agit de penser, disait-il, aux vertus, aux talents qui distinguent un si grand nombre d'entre eux et qui doivent leur concilier votre bienveillance et votre estime. Les curés doivent-ils intégrer dans leur prône tous les décrets des pouvoirs publics ? Il y en a tellement. L'évêque énonce un principe de base. Il faut nécessairement publier dans les formes prescrites les différents décrets sanctionnés par le roi, en particulier ceux qui ont pour objet d'assurer et de régler la perception et la mesure des impôts. Mais s'il s'agit simplement de faire connaître à tous les citoyens les principes et les sentiments des membres du corps législatif, les curés peuvent sans doute les exposer à leurs paroissiens, mais sans plus. Et Monseigneur commente, « Chaque citoyen est libre dans le jugement qu'il peut emporter et indépendant dans l'exercice de la pensée. Vous ne pouvez pas commander à celle des autres, et on ne peut pas commander à la vôtre. » On pourrait penser que Monseigneur de Villevielle avait adopté la philosophie des Lumières pour qui la liberté d'opinion et le principe de tolérance étaient des revendications fondamentales. Monseigneur de Villevielle commença la visite pastorale du diocèse dès le début de juin 1790. Mais avant de l'avoir terminée, l'Assemblée nationale, le 12 juillet 1790, voter la constitution civile du clergé qui, approuvée par le roi le 24 août suivant, devait entraîner bien des difficultés pour le clergé et les fidèles. Nous en verrons la prochaine fois les conséquences dans le diocèse de Bayonne.